Bien, c'est un plaisir et un honneur d'avoir Emmanuel Bigand qui va donner la conférence. Emmanuel Bigand est professeur de psychologie cognitive à l'Université de Dijon et il est membre de l'Institut universitaire de France, qui est une très grande distinction. Il dirige l'UMR CNRS spécialisé sur l'apprentissage et le développement de l'enfant depuis 2003. Il a une formation musicale au conservatoire, d'abord comme contrebassiste, puis maintenant comme violoncelliste, et a été instrumentiste pendant 4 ans à l'Orchestre Philharmonique de Marseille. Il a orienté son travail de recherche vers l'analyse des processus cognitifs impliqués dans l'écoute et la pratique musicale. Il a coédité plusieurs ouvrages, dont « Penser les sons » et plus récemment « Le cerveau mélomane », que je vous invite à lire. Il a dirigé un programme européen de recherche sur les effets de la musique sur le cerveau. Sa recherche actuelle, j'espère que c'est bien réel. Non, j'espère que les informations ne sont pas trop anciennes.
D'accord. J'attends la suite avec impatience. C'est les phénomènes d'attente.
Phénomènes d'attente, alors, le rewarding positif.
Ouais, mon noyau codé est en alerte.
Vous avez raison. Porte sur l'utilisation de la musique pour la stimulation et la rééducation cognitive des patients Alzheimer et des enfants sourds profonds appareillés.
Oui, c'est ça.
Alors, exactement. C'était trop attendu, pas loin.
Bon, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous pour parler de musique. Mon ordinateur n'était pas ravi ce matin de venir avec moi, donc il est resté bloqué. Donc il n'y aura pas de support visuel, mais je pense que cette maison noble a eu plus de conférences sans support visuel dans l'histoire que des conférences avec support visuel, et je pense que ça ne sera pas du tout gênant pour vous faire passer le message principal que je voulais vous faire passer ce matin. Je crois que je vais prendre l'exposé, on ne s'est pas du tout concerté avec Christine, mais exactement là où elle le laisse. C'est-à-dire que je pense que les travaux de Robert Zator, et dont on a eu le détail très précis dans la première partie de la matinée, posent clairement une question, mais quelle est la dimension de l'humanité qui s'exprime par ces activités musicales? Et je pense que c'est la question qui nous intéresse tous, c'est sans doute fondamentalement aussi pour ça que vous êtes là. Et pour nous, scientifiques, la question, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va apprendre de spécifique sur la cognition et le cerveau humain en analysant ces activités. Et évidemment, ce n'est pas une question complètement neuve dans l'histoire de la réflexion, puisque vous savez que dans toute l'histoire de la philosophie, on s'est demandé mais pourquoi les humains font de la musique. Cette activité, en apparence, n'a pas de valeur adaptative, et pourtant, tout le monde investit beaucoup de temps, parfois de l'argent, beaucoup d'argent, il y a une économie de la musique qui se porte très bien. Et pourquoi les humains font-ils de la musique? Je pense que les travaux de neurobiologie qui ont été rapportés posent cette question avec encore plus d'insistance, et je vais reprendre cette question et on va la développer jusqu'à 1h30, c'est bien ça, je n'ai pas le droit de déborder. Hein. D'accord. Pour situer rapidement les trois possibilités qui s'offrent à nous pour réfléchir sur cette question, pourquoi les humains font de la musique, il faut revenir à une position que vous connaissez peut-être, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est celle de Stefan Pinker. Stefan Pinker était un grand chercheur en sciences cognitives, un psycholinguiste initialement, qui a dirigé le prestigieux MIT, Massachusetts Institute for Technology, mais qui est un centre de sciences cognitives aux États-Unis. Et Pinker a écrit un ouvrage qui a fait date, qui s'appelle « Comment l'esprit fonctionne » en anglais, et ça a été traduit chez Odile Jacob sous ce titre-là, un ouvrage qui fait 300 ou 400 pages à peu près, et dans lequel il explique un petit peu tous les processus mentaux qui sont absolument nécessaires pour que l'espèce humaine se développe telle qu'elle s'est développée. Et dans l'esprit de Pinker, qui suit une approche qu'on appellerait aujourd'hui la psychologie évolutionniste, notre cerveau a évolué, a sélectionné petit à petit les processus mentaux qui sont absolument indispensables pour régler les grandes questions d'adaptation qui se sont posées de tout temps à l'espèce humaine. Dans le langage métaphorique de Pinker, on peut le garder parce que les métaphores sont utiles de temps en temps, c'est la boîte à outils cognitive qui s'est petit à petit installée durant la phylogénèse. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un outil pour faire de la musique dans cette boîte à outils ou n'y en a-t-il pas ? Et la réponse de Pinker est très claire. Il n'y a pas d'outils pour faire de la musique dans cette boîte à outils au sens strict. Par contre, il n'y a dans cette boîte à outils que des outils utiles, sérieux, indispensables pour l'adaptation. Par contre, on peut utiliser ces outils le dimanche pour faire des activités agréables. La musique et l'art font partie de ces activités. C'est un petit peu la position de Pinker qui a été résumée dans cette phrase que vous connaissez sans doute, « Music is a cheesecake ». Je ne sais pas comment ça a été traduit dans l'ouvrage d'Odile Jacob, mais on pourrait dire « musique, c'est la cerise sur le gâteau de l'évolution ». Et ça se suit par une autre phrase qui est beaucoup plus terrible, beaucoup plus difficile à accepter. « Si la musique venait à disparaître, le cours de l'humanité ne serait pas changé ». Alors là, c'est plus compliqué. Et je me souviens quand Pinker a présenté sa théorie, c'était à Boston, il y avait tout le congrès de neurosciences de la musique qui était présent, on était un peu choqués d'entendre ça, mais c'était une provocation qui, sur le plan scientifique, était utile. C'était manifestement une question à laquelle les scientifiques devaient répondre. Que se passerait-il si la musique disparaissait de l'humanité? Ou à l'envers, à quoi a-t-elle servi? Autrement dit, quel type d'avantage adaptatif a-t-elle pu apporter à l'espèce humaine pour qu'elle soit présente dans toutes les cultures humaines et qu'elle n'ait jamais disparu dans l'histoire de ces cultures? Les rares moments où la musique disparaît dans une civilisation, ce sont des moments assez dramatiques, comme vous le savez, et il y a une fin happy end, ça revient toujours. Donc, pour le moment, l'humanité se porte bien. Donc, cette question, elle était véritablement importante, et pour être plus précis sur la pensée de Pinker, Pinker disait, il était psycholinguiste, en fait, il y a beaucoup de parenté entre la musique et le langage, et la musique est un dérivé du langage, c'est-à-dire que la musique mime, s'émancipe un peu de la signification, mais une forme de langage sans signification. Et ce n'est pas complètement faux, quand on prend l'histoire de la musique, il y a des périodes dans la Renaissance italienne où les musiciens ont cherché clairement à imiter le langage. Sur le plan neuroscientifique, ça veut dire que la musique va squatter les réseaux neuronaux du langage. Et ça tombe bien, lorsqu'on fait des études en imagerie cérébrale, on voit qu'effectivement, la musique active beaucoup de réseaux neuronaux. Sauf que c'est le problème de la poule et de l'œuf. Qui est avant qui? Parce qu'il y a manifestement une corrélation entre les deux. Donc, la première attitude, la première possibilité de comprendre pourquoi les humains font de la musique, eh bien, c'est celle que nous propose Pinker, c'est-à-dire qu'on a une boîte à outils, le langage fait partie de cette boîte à outils, sérieuse, et on peut les utiliser pour faire des choses agréables. Il y a des tas de loisirs qui sont développés par l'espèce humaine. On n'a pas un cerveau qui a évolué pour faire ces loisirs, mais on a développé ces loisirs parce qu'on avait le cerveau tel qu'il était. Exactement pareil pour les sucreries. Notre cerveau n'a pas évolué pour manger le cheesecake, mais c'est parce qu'il a évolué comme ça que le cheesecake est quelque chose de plaisant. C'est une première approche, et pour être tout à fait franc, je pense que si on faisait un sondage à l'échelle nationale, on aurait probablement une grande victoire de cette approche. Tout le monde considérait, dans notre culture en tout cas, que la musique est une sorte de loisir, d'activité, de passe-temps agréable, mais ce n'est pas de plus. Et pour tout dire, même les compositeurs le disent. Borodine était à dire que la musique était une activité tout à fait relaxante après avoir fait les activités sérieuses. Alors si les compositeurs s'y mettent aussi, la tâche va être compliquée. Que faire des politiques qui vont évidemment pousser encore plus haut le flambeau. Et vous voyez que ça pose un vrai problème de conception à quoi sert la musique. Ça, c'était une possibilité. Il y a deux autres possibilités. L'autre possibilité, je crois que vous la connaissez aussi, et d'ailleurs, Christine y faisait allusion tout à l'heure, c'est Darwin, qui, évidemment, n'a pas attendu Pinker pour se poser la question de savoir pourquoi les humains font de la musique. Et il a remarqué que dans l'espèce humaine, comme dans les autres espèces animales, il y a des activités qui, en apparence, ne servent à rien, mais qui ont malgré tout une valeur adaptative, et c'est toute cette théorie que je ne vais pas résumer ici, que la musique, comme le plumage du paon, peut avoir comme principale valeur adaptative de contribuer à la formation des couples et à la sélection des partenaires. Et l'idée, je pense, de Darwin dans le cadre de la musique, c'est de dire que nos ancêtres néandertaliens, peut-être même avant, n'étaient pas des brutes épaisses, ils avaient des émotions, parce que sans émotions, ils n'auraient pas pu vivre et survivre, et que probablement, quelqu'un qui, par une activité de type musical, avait la possibilité d'exprimer ses émotions ou de moduler les états émotionnels des autres, bien présenter des caractéristiques qui pouvaient avoir un attrait pour la formation des couples. Je résume très rapidement la position de Darwin. Donc, la musique et l'aptitude pour la musique auraient pu résulter d'une sélection adaptative parce qu'elle contribue à la formation des couples et que ceux qui ont plus de facilité pour faire des couples ont plus de facilité pour avoir des enfants et donc le bagage génétique se répand plus et c'est toute la logique de l'évolution que vous connaissez. Alors ce qui est intéressant ici de voir, c'est qu'on a une position qui est complètement opposée à celle de Pinker. Et cette fois, Darwin va dire la musique est avant le langage parce que c'est la communication émotionnelle qui probablement est arrivée dans la phylogénèse avant la communication symbolique complexe qui est le langage. Et plus probablement, le langage dérive de ces premières formes de communication. Donc les réseaux neuronaux qui sont les plus archaïques sont ceux qui ont été mis en place pour des formes de communication émotionnelle. Et ensuite, sont venues les formes plus spécialisées, plus localisées de réseaux pour le langage. Une autre conception. Il y a pas mal d'études qui sont faites pour essayer de valider aujourd'hui la théorie de Darwin. Si on a du temps pour des discussions, on pourra revenir. C'est tout à fait amusant au niveau des approches expérimentales. Une autre façon de conjuguer l'argument de Darwin est de prendre le problème sous un angle un tout petit peu différent, et c'est une position qui nous vient de la psychologie développementale. Les psychologues du développement, notamment Sandra Taub, qui travaille au Canada, à Toronto, et qui a beaucoup travaillé sur l'effet de la musique chez les bébés, notent qu'il y a un moment essentiel pour la survie du bébé, c'est l'attachement émotionnel que le bébé crée avec son entourage immédiat, ses parents, sa maman en général, et que si cet attachement émotionnel ne se fait pas bien, le bébé va avoir des retards de développement, des handicaps qui vont l'handicaper dans toute sa vie, et dans les cas les plus extrêmes, le bébé peut mourir. Une carence émotionnelle forte conduit au décès du bébé. Donc, d'un point de vue purement évolutif, Treub va faire remarquer que cette phase-là est essentielle. Si l'espèce humaine ne prend pas bien soin de ses bébés dès les premiers jours de l'existence, sa survie va être en danger, parce que ces bébés n'arriveront pas à maturité pour se reproduire et propager les profils génétiques de l'espèce. Donc, d'un point de vue évolutionniste, on peut considérer que tous les comportements qui vont favoriser cet attachement émotionnel, qui vont rendre une relation émotionnelle stable entre le bébé et son environnement social, pourraient être sélectionnés parce que, évidemment, ils ont une implication concrète pour la survie de l'espèce. Donc Treub va dire que la musique présente des avantages énormes toutes les autres activités. Alors évidemment, la première forme de marquer son contact, une relation émotionnelle avec un bébé, c'est le contact. Mais le contact, c'est handicapant parce qu'il faut avoir toujours le bébé dans les bras, etc. Si on peut avoir une sorte de contact physique à distance par des sons interposés, ça présente des tas d'avantages. La maman peut faire d'autres choses, etc. Donc la musique est un comportement qui pourrait avoir été sélectionné pour cela, pour renforcer cet attachement émotionnel. Alors, ce n'est pas qu'une idée. Sandra Treub va dire, si c'est vrai, alors on doit avoir dans les comportements des sociétés des choses tout à fait particulières. D'abord, on doit voir que partout dans le monde, on chante aux bébés. Les mamans chantent des berceuses. Alors, ça peut être les papas, en général, c'est les mamans, mais on s'en fiche, en fait. Il faut qu'on chante aux bébés. Mais plus encore, c'est des bébés, donc on ne doit pas chanter de façon encore très culturalisée. C'est encore des petits êtres avec des contraintes biologiques très fortes. Donc toutes les berceuses du monde doivent avoir des régularités structurelles très grandes. Donc s'il existe des universaux en musique, on a beaucoup cherché les universaux en musique, ils sont dans les comptines pour les bébés. Et donc elle va faire cette analyse et elle va voir qu'effectivement dans toutes les cultures du monde, il y a énormément de régularités structurelles dans les berceuses pour les bébés et que ça ne peut pas être un hasard. C'est-à-dire que probablement, ça répond à des prédispositions biologiques ou à des prédéterminations et qui répondent à des fonctions qui ne sont pas d'ordre supérieur, mais qui sont d'ordre des implications évolutionnistes adaptatives. Et là encore, les travaux de Treub vont montrer que le bébé est extrêmement sensible à la voix chantée, beaucoup plus sensible à la voix chantée qu'à la voix parlée de la maman. Et la preuve en est que quand on parle à un bébé, encore aujourd'hui, on lui parle avec ce parler bébé si caractéristique, qui est en fait quasiment un chant avec des intonations extrêmement grandes. Et que ce parler bébé, une fois encore, a les mêmes caractéristiques dans toutes les cultures du monde. Donc, ça laisse penser que ce moment particulier de la vie de l'espèce où le bébé s'attache à son environnement social, la musique pourrait jouer un rôle tout à fait fondamental dans cet instant-là. Et c'est tellement essentiel pour la survie de l'espèce qu'elle aurait pu être sélectionnée pour cela. Alors, on va dire que le monde est bien fait. Selon Darwin, la musique aide à faire les couples, une fois que les couples sont faits, en général, ils ont des bébés, et la musique, c'est bien fait aussi. Ça aide les couples à s'occuper des bébés. En jouant sur ces deux aspects, la musique peut être, avoir un intérêt adaptatif essentiel, et c'est pour cela qu'elle aurait été sélectionnée durant l'espèce. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est ici à des antipodes de Pinker, c'est-à-dire que ce n'est plus du tout la musique qui squatte les réseaux du langage, mais c'est la musique qui, au contraire, préfigure des systèmes de communication avec l'alter ego, enfin avec les membres de la société, et qui, de ce fait-là, préfigure la fonction symbolique de communication et donc qui anticipe le langage. Donc, deux conceptions complètement différentes. Il y a une troisième conception qui essaye d'être un peu intermédiaire et qui a donné le titre à cette présentation. Non pas que j'adopte plutôt cette position plutôt qu'une autre, on ne sait pas encore. C'est intéressant de voir juste l'espace des hypothèses possibles. Cette troisième possibilité, elle a été développée par un neuroscientifique brillant, Anirudh Patel, qui travaille à Taft University aux États-Unis, et qui dit, en fait, l'espèce humaine n'était pas prédisposée pour développer la musique. De la même façon, l'espèce humaine n'était pas prédisposée pour développer des neurones de la lecture. Mais, par le hasard des événements, un jour, l'espèce humaine a découvert la musique et a constitué un objet, a créé une technologie, c'est-à-dire quelque chose que l'homme fait, autour de ses activités musicales. Et à ce moment-là, ça a eu des conséquences fondamentales sur le reste du développement de l'esprit humain, c'est-à-dire que tout a été différent. Avec cette technologie, l'être humain a complètement modifié la formation de son cerveau, la formation de sa cognition et influencé le cours de son histoire. C'est ce qu'on appelle une technologie transformationnelle de l'esprit. Et l'équivalent le plus simple, c'est la lecture. Le jour où la lecture a été découverte, ça a quand même complètement, fortement changé le cours de l'histoire de l'humanité. Si la lecture disparaissait, je pense qu'à terme, ça changerait probablement beaucoup de choses. Alors, cette technologie, elle ne suppose pas d'être prédisposée génétiquement. Elle s'appuie sur des aptitudes, la boîte à outils de Pinker qui existe, donc le langage. Mais une fois qu'elle est rajoutée dans la boîte à outils, comme un objet en quelque sorte artificiel, elle va complètement modifier les travaux de l'artisan qui utilise cette boîte à outils. Alors, on a trois possibilités. Pour le moment, c'est les principales qui dominent la réflexion. Et ce qui est intéressant, c'est que ces trois possibilités, on peut les interroger de façon très précise du point de vue scientifique. Regardez, si on prend juste les liens entre musique et langage, si on est du côté Pinker, c'est très clair que la musique arrive après le langage. La musique squatte le langage. Si le langage disparaît, quid de la musique ? On aura du mal à imaginer qu'elle va continuer à exister. Si on est du côté de Darwin ou de Treveb, des développementalistes, on va dire non, c'est l'inverse. D'abord, la communication émotionnelle apparaît dans la phylogénèse et dans l'ontogénèse, parce que ça, c'est essentiel, soit pour former des couples, mais en tout cas pour que le bébé puisse s'intégrer dans son environnement social. Et ensuite, une fois que cette forme de communication avec les autres est inscrite, ça va pouvoir évoluer, ça va pouvoir s'enrichir, ça va pouvoir devenir une forme plus complexe de type symbolique comme le langage. Donc la musique avant, le langage après. Si la musique disparaît, on ne sait pas ce que fera le langage, mais si le langage disparaît, la musique reste. Que va dire Patel ? Patel, il est du côté de Pinker, il va dire la musique c'est une technologie, mais elle, pour être présente, il faut que le langage existe. Donc si le langage n'est pas là, cette technologie ne peut pas émerger. Alors à partir de là, je ne sais pas, peut-être que ça vous donne des idées, mais on voit vite ce qu'on va pouvoir faire, parce que la nature, parfois, enlève des aptitudes chez les gens, et il y a des gens qui perdent l'activité du langage, donc on va pouvoir regarder, mais une fois qu'on a perdu de l'activité du langage, est-ce que par hasard, ces gens-là ont encore des aptitudes musicales ? Ah, ils en ont encore ? Amusant. Est-ce que par hasard, si on est de l'autre côté, avec ces aptitudes musicales, on peut arriver à récupérer quelque chose des aptitudes du langage ? Donc on est dans une problématique qui n'est pas simplement philosophique ou épistémologique, mais qui a des implications sociétales extrêmement importantes, et c'est ce que je voudrais développer dans la suite de ma présentation. Alors, il y a des hypothèses qu'on peut faire de différents ordres pour tester ce débat, en fait, de quelle est la fonction de la musique. On peut regarder, si on était anthropologue, les vestiges, savoir à partir de quand les humains ont fait de la musique. Si on pense que la musique résulte d'une sélection adaptative, on va trouver des vestiges il y a très longtemps. Je ne suis pas anthropologue, je ne vais pas entrer dans le débat, mais vous savez probablement qu'on a trouvé, et Christine l'a rappelé tout à l'heure, des instruments de musique très anciens. Si on est psychologue, on va se dire, la phylogénèse, c'est difficile pour nous d'expérimenter dessus, mais on va re-regarder vraiment ce qui se passe dans le détail chez le bébé. Donc je vais vous donner un petit peu des éléments là-dessus, sur ce qu'on a trouvé. Si on est psychologue, on va se dire aussi, si cette aptitude pour la musique est quelque chose qui est prédestiné, enfin, l'espèce humaine est prédestinée à développer cette aptitude parce que ça joue un rôle essentiel, eh bien, on doit faire une hypothèse assez simple, c'est que cette aptitude est très largement partagée. Autrement dit, vous êtes tous des musiciens, même si vous ne le savez pas, même si vous n'avez pas fait d'études, c'est-à-dire que l'aptitude pour la musique n'est pas inféodée à un apprentissage intensif dans des écoles spécialisées. C'est une aptitude naturelle qui se développe dans l'environnement exactement comme l'aptitude linguistique. Ce n'est pas une hypothèse simple à vérifier, j'en donnerai un mot puisque j'ai passé l'essentiel de ma carrière à travailler sur cette hypothèse. Et la troisième, que je prendrai plus de temps à développer parce que je pense que c'est celle qui a le plus d'implications sociétales, c'est de dire si la musique a un rôle, a eu un rôle dans la formation de l'esprit et du cerveau, dans les cas de pathologie cérébrale, pas la musicothérapie, mais vraiment dans les cas de neuropsychologie, les cas de pathologie neuropsychologique, la musique peut être d'une utilité pour relancer certains réseaux neuronaux qui ont été affectés. Donc la suite de ma présentation va être de présenter un petit peu, de résumer ce qu'on a trouvé sur ces trois lignes de réflexion. J'espère que l'absence de support visuel ne vous perd pas. Alors les bébés, c'est facile les bébés. Les bébés, on sait qu'ils sont incroyablement musiciens, c'est des petits musicologues en herbe. Je vous donne juste un exemple. Si vous faites entendre une étude qui a été faite par le laboratoire de l'oreille Trainor à Toronto, si vous faites entendre un bébé avant sa naissance des petites mélodies style Twinkle, Twinkle, Little Star, à vous dirais-je maman en français, et que vous demandez ensuite aux mamans de ne plus jamais faire entendre ces mélodies pendant un an au bébé. Et qu'au bout d'un an, vous appelez les mamans dans le laboratoire et vous faites entendre ces mélodies, mais vous faites des fausses notes. Vous mettez un casque EEG sur la tête. À chaque fausse note, vous avez une mismatch negativity, c'est-à-dire une réaction cérébrale du bébé qui dit « Attendez, là, il y a une fausse note. C'est pas ça que j'ai entendu avant de naître. » Et les bébés qui n'ont pas été exposés in utero à cette musique, ils ne réagissent pas du tout à ces fausses notes. Ça veut dire que la fausse note ne crée pas un accident acoustique qui pourrait surprendre le bébé. Mais ça veut dire que les bébés encodent les intervalles, les contours, ils les gardent en mémoire, même s'ils ne sont pas... Bon, c'est un résultat surprenant. L'équipe de Perani, en Italie, s'est ensuite demandé mais comment les bébés réagissent à la musique lorsqu'ils ont 1, 2 ou 3 jours à la naissance. On peut mettre des bébés, vous savez que ça se fait aussi en France, dans des scanners à 1, 2 ou 3 jours, ça peut se discuter, mais ça se fait, bon. Et ils ont regardé comment les bébés réagissaient à des musiques qui sont plaisantes ou des musiques, comme l'a mentionné ce matin Christine, qui sont dissonantes, altérées, donc qui sont désagréables, on va dire. Et ils se sont dit, est-ce que déjà le bébé a les moyens de différencier ces types de musique et où ? Ils ont 2-3 jours, les bébés. Et ils ont vu que l'amygdale était activée et que l'amygdale droite et l'amygdale gauche différencient bien, répondent de façon différenciée aux musiques plaisantes et aux musiques déplaisantes. Donc les réseaux, des éléments en tout cas du réseau émotionnel du cerveau, sont déjà répondants à la musique. D'autres études dans ce groupe se sont dit, mais est-ce que le bébé, finalement, on sait qu'il préfère la voix de sa maman chanter, mais est-ce qu'il est un peu exigeant avec la façon dont la maman chante ? Donc ils ont demandé à des mamans de venir au laboratoire, et ils leur ont dit, vous pouvez chanter à votre bébé de façon expressive, une chanson, vous pouvez chanter de façon neutre, comme si vous ne vouliez pas interpréter. Et figurez-vous que les bébés ont des comportements qui montrent qu'ils préfèrent très nettement lorsque la voix de leur maman chante de façon expressive. Ils adorent forcément la voix de leur maman, même quand elle ne chante pas de façon expressive, mais à tout prendre, ils préfèrent qu'elle soit expressive. D'autres études surprenantes qui, maintenant, permettent de comprendre pourquoi les bébés portent autant d'attention émotionnelle à la musique. Et vous allez voir que c'est le titre même de la journée, c'est vraiment le lien social. On a fait des études où on a 4 conditions. J'utilise mes doigts comme support visuel. La maman qui chante une chanson et une vidéo qui chante la même chanson ou un petit jouet qui chante la chanson bébé. Vous savez, les petites boîtes à musique. Et le bébé est fréquemment présenté avec ces 3 types de matériel. Ensuite, on demande à un étranger de venir. Et l'étranger, donc il y a 3 groupes de bébés, j'espère que je suis clair. L'étranger va chanter soit la voix de la maman, soit la chanson de la maman, soit une autre chanson. Il y a 2 étrangers. Ils chantent soit la chanson de la maman, soit une autre chanson. Les bébés qui ont écouté la chanson chantée par la voix de la maman préfèrent l'étranger qui chante la chanson de la maman et ils ne regardent pas l'autre. Mais les bébés qui ont été exposés à la même mélodie, mais soit par le film, soit par le petit jouet, ne font pas la différence entre les deux. Donc c'est très intéressant, ça veut dire que le bébé utilise la musique comme un moyen de médiation sociale, et ça ne marche que si cette musique a été produite par une personne qui, évidemment, présente une valeur affective forte pour le bébé. Le bébé aime bien ses jouets, mais à tout prendre, il préfère sa maman, et il préfère sa maman qu'un film. Donc la musique est un moyen de médiation sociale pour le bébé. Une autre expérience qu'il montre, c'est une expérience encore plus surprenante. On demande, c'est toujours l'équipe de Laurel Trainor à Toronto, aux mamans de venir au laboratoire avec leur bébé, et il y a une expérimentatrice qui est en face. Et la maman porte son bébé, ils sont tout petits, ils ont 5-6 mois, elle les porte comme ça dans les bras, et avec l'expérimentatrice, ils écoutent la même musique et ils dansent. Donc le bébé a une expérience musicale cohérente avec l'expérimentatrice via cette expérience. Première condition expérimentale. Deuxième condition expérimentale, c'est la même chose, sauf que l'expérimentatrice, la maman, n'écoute pas la même musique. Donc la maman danse sur une musique, le bébé entend cette musique, et l'expérimentatrice danse sur une autre musique. Donc une expérience musicale qui est incohérente, on va dire, pour le bébé, deux conditions expérimentales. L'essentiel arrive. Juste après ça, on met le bébé par terre, il marche à quatre pattes, et l'expérimentatrice fait tomber un objet volontairement à la hauteur du bébé et lui dit, fait signe de rapporter l'objet. Que croyez-vous qui se passe ? Je vous laisse chercher un peu. Le bébé qui a eu une expérience musicale cohérente avec l'expérimentatrice va prendre le jouet et va le donner à l'expérimentatrice. Et l'autre, il va prendre le jouet, mais il va partir avec. Des expériences comme ça, on en a de plus en plus qui nous permettent de comprendre qu'il y a un enjeu dans de support de médiation émotionnelle qui est la musique, qui est non seulement de stimuler son cerveau pour avoir une réponse émotionnelle, mais surtout de l'interpréter et de l'intégrer comme une médiation des relations sociales. C'est-à-dire que c'est un enjeu socio-cognitif ou socio-affectif qui se met en place dès les premiers jours de la vie du bébé. Il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites comme ça. Allez, encore une, parce que c'est quand même drôle de voir ce qui se passe chez les enfants. Une étude qui a été faite sur des enfants un tout petit peu plus âgés et ils doivent résoudre des problèmes ensemble. Donc, ils doivent mettre des objets sur des endroits, faire des tours, des choses comme ça. Enfin, vous voyez, tout ce qu'on peut demander à des enfants. Mais pour le faire, ils doivent collaborer entre eux. Ils doivent s'aider, etc. Et les expérimentateurs notent les comportements de collaboration chez les enfants. Il y a deux conditions expérimentales. Une condition où il y a de la musique, une condition où il n'y a pas de musique. Et il y a des enfants garçons et des enfants filles. Ce qu'on trouve un effet du genre énorme, les petites filles collaborent beaucoup plus que les garçons, et un effet musique. Lorsqu'on met de la musique, tous les enfants collaborent plus, y compris les garçons. Donc, si vous avez des garçons qui ne collaborent pas pour faire la vaisselle, mettez-leur de la musique, ils seront normalement plus collaborants. Tout ça laisse penser, je dis ça à tout hasard, tout ça laisse penser que l'enjeu fondamental de la musique, c'est évidemment cette relation aux autres et cette relation d'empathie. Et je pourrais multiplier les expériences comme ça, mais je ne vais pas vous garder très tard. Donc ça, c'est ce que nous indiquent les études sur le bébé. Les études sur l'adulte, j'ai pu mener ces études pendant une longue partie de ma carrière, montrent que vous êtes tous musiciens. Vous êtes tous musiciens, mais vous ne le savez pas. C'est-à-dire que très souvent, on a la sensation que certains sont plus musiciens d'autres parce qu'ils peuvent parler de la musique. Et évidemment, ils ont appris à en parler, donc ils peuvent en parler. Mais ce n'est pas parce qu'on peut parler de quelque chose qu'on perçoit très bien, enfin qu'on perçoit mieux les choses que ceux qui ne peuvent pas en parler. On a des tas d'exemples dans des tas de situations. Si on prend la peine de questionner avec des méthodes expérimentales appropriées les compétences musicales du grand public, on constate que les éléments de la syntaxe musicale qui gèrent les attentes, dont a parlé Christine à la fin de son exposé, c'est-à-dire le fait que vous puissiez anticiper sans savoir évidemment ce qui va venir, sont exactement fonctionnels de la même façon chez les musiciens et chez les non-musiciens. Avec plus de temps, je pourrais le montrer, mais je pourrais vous répondre à vos questions si vous voulez sur ça. Et ça, c'est évidemment très, très important parce que le système d'attente, et merci Christine d'avoir présenté comme ça ces travaux, parce que ça aide ensuite, ce système d'attente est fondamental pour les émotions. C'est parce que vous êtes projeté en avant par la musique que vous pouvez avoir des émotions avec cette musique, parce qu'évidemment, les musiciens et les compositeurs jouent avec ces attentes. C'est un peu comme un roman policier, en fait. Un écrivain de roman policier, il joue avec les attentes des auditeurs. Et ces phénomènes d'anticipation sont exactement de même nature chez les musiciens et chez les non-musiciens. On a regardé également les réponses émotionnelles. Au début de sa présentation, Christine dit qu'il y a quatre grandes émotions et il y a un espace émotionnel, vous savez, qui est continu, qui varie avec des énergies basses et des énergies hautes et des valences positives et des valences négatives. On peut montrer que la musique vous promène de façon très continue dans cet espace. Il n'y a pas que quatre grandes zones, la gaieté, la colère, la tristesse et la sérénité. La musique vous promène à l'intérieur d'une pièce ou entre les pièces dans cet espace. C'est exactement de la même façon le voyage dans cet espace émotionnel pour les musiciens et pour les non-musiciens. Christine a parlé des études de Robert, magnifiques études, vous les avez vues. Les sujets dans ces études ont entre 0 et 20 années d'expérience musicale. La moyenne est de 8. C'est une condition expérimentale extraordinaire pour voir si, par hasard, il y a des corrélations entre les réponses du cerveau et la formation musicale. Parce que comme on l'a montré avec l'argent qu'ils sont prêts à mettre pour payer les morceaux de musique, si les musiciens ont des réponses émotionnelles plus fortes, bien ça va se voir au niveau des IRM, ils vont avoir des activations dans la Kumbanz et dans le noyau codé plus fortes. Il n'y a pas de corrélation qui émerge dans les études de Robert Zatoré, dans toutes ces études, malgré l'ampleur des variations d'éducation musicale de ces sujets. Donc, ça laisse penser que, du point de vue des réponses émotionnelles, nous sommes tous égaux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui sont plus musiciens que d'autres, bien sûr, parce qu'ils ont développé des techniques pour jouer de la musique, etc. Mais potentiellement, l'aptitude pour la musique est largement partagée. Alors, le troisième point, et je regarde ma montre parce que je veux garder un peu de temps pour le développer suffisamment, c'est un point qui, je pense, est le plus important dans les 10 dernières des recherches qui ont été faites dans les 10 dernières années. L'objectif de ces recherches, ça a été de comprendre comment la musique pouvait potentiellement modifier le cerveau dans sa plasticité cérébrale et dans son organisation fonctionnelle. Je vais résumer les principales découvertes qui ont été faites dans cette perspective. Au début, les neuroscientifiques sont des gens très sérieux et très précautionneux. On s'est dit, si on doit chercher des modifications de la musique sur le cerveau, c'est chez les musiciens qui ont passé des années et des années depuis qu'ils sont tout petits à faire de la musique qu'on va commencer à regarder si on peut les trouver. C'était logique. Donc, on a étudié des musiciens qui avaient 15-20 ans de pratique musicale intensive et on a pu montrer... c'était les travaux de Christo Pantef, par exemple, qu'au niveau du cortex moteur, au niveau des zones qui gèrent la main des musiciens, vous aviez des densifications de connectivité, de connexion entre les neurones, et que ça conduisait à faire des plissures dans les circonvolutions cérébrales. Et donc, vous aviez des marques de plasticité, et que la main du musicien violoniste entraînait une plasticité forte dans l'hémisphère droit, mais pas dans l'hémisphère gauche, parce que la main gauche qui tient l'archet a moins de motricité fine. Par contre, chez le pianiste, qui utilise ses deux mains de façon aussi exigeante, vous aviez de la plasticité sur les deux hémisphères. On a vu également, et là vous ne serez pas surpris, que la matière grise est plus dense dans les cortex auditifs chez les musiciens que chez une population contrôle, simplement parce qu'ils utilisent plus leur cortex auditif pour faire leur métier. Bon, c'est très bien, mais j'ai envie de dire tant mieux pour eux. En quoi ça intéresse ceux qui font pas ce métier-là ? Ce qui était plus intéressant, c'était de voir qu'il y avait d'autres zones qui étaient moins spécifiquement liées à l'activité musicale, qui étaient aussi développées. Ce que j'appellerais communément des autoroutes de communication, parce que ça parle tout seul et qu'on n'a pas besoin de rentrer dans une terminologie neuroscientifique spécifique. Les autoroutes de communication, il y a le noyau, il y a le corps calleux qui relie les deux hémisphères. Et relier ces deux hémisphères, c'est important pour qu'on ait une collaboration des deux hémisphères à l'activité. Le corps calleux, la partie antérieure du corps calleux des musiciens est plus dense que celle de la population normale. Cette densité peut s'expliquer parce que, bien évidemment, ils coordonnent plus la partie droite et la partie gauche du corps, quel que soit leur instrument, les percussionnistes, les batteurs et même les violonistes. Je ne peux pas dire du mal des violonistes ici, bien sûr. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que quand ils ne font pas cette activité, cette densité de fibres, elle existe aussi. Donc, elle peut servir pour d'autres activités qui ne sont pas musicales. Tout d'un coup, on s'est dit, ah oui, mais ça, c'est intéressant, parce que maintenant, ça change un peu le problème. Peut-être que la musique donne des ressources neuronales supplémentaires à ceux qui la pratiquent, et que ces ressources neuronales peuvent être utilisées pour des activités qui ne sont pas musicales. C'est un peu comme quand on fait des grandes autoroutes pour une raison spécifique, mais qu'après, on l'utilise pour partir en vacances, quoi. Ou pour faire d'autres choses. Et on s'est dit, tiens, intéressant. On va regarder d'autres autoroutes de la communication. Donc, on a regardé le faisceau arché qui relie le cortex temporal au cortex frontal. Et on s'est dit, est-ce qu'il y a quelque chose à voir ? Et effectivement, on trouve la même chose. C'est-à-dire que chez des musiciens, le faisceau arché est plus dense que chez d'autres personnes qui sont tout à fait actives, hein, qui ont une vie tout à fait normale et tout à fait magnifique, sauf que la densité du faisceau arché est moins grande. Qu'est-ce qui se passe chez l'enfant qui apprend la musique ? Vous prenez deux enfants de 6 ans, vous mesurez la taille de leur faisceau arché avant qu'ils fassent de la musique. Même taille, hein, petite densité. Vous les prenez 2 ans après, la densité de celui qui a fait de la musique est beaucoup plus grande, beaucoup plus forte. Celui qui n'a pas fait de musique, il a fait plein de choses, sauf que ça n'a pas eu cet impact sur ses autoroutes de la communication. Et là encore, la perspective qui s'ouvre, c'est de dire que ces ressources neuronales qui sont créées par cette activité, une fois qu'elles sont installées dans le système, elles peuvent être utilisées pour d'autres fonctions que la musique. De la même façon, là aussi je pourrais passer beaucoup de temps, Nina Kraus aux États-Unis travaille sur le tronc cérébral, une structure dans laquelle on n'a pas envie de dire que ça va être une structure très plastique, mais montre qu'une exposition, alors perceptive cette fois, intensive à la musique, crée une plasticité cérébrale, et que ça a des avantages très très importants, notamment en termes de capacité à séparer le langage dans des situations bruitées du bruit. Hein, et que les musiciens ont une facilité beaucoup plus grande à séparer le langage dans les environnements bruités. Vous savez, quand vous écoutez quelqu'un qui parle dans un hall de gare ou dans une soirée ou dans un restaurant, c'est très difficile. Donc c'est un très très bon indice de mesure de la jeunesse en quelque sorte et de l'aptitude du système auditif. Et elle montre que des gens qui ont fait de la musique, même s'ils n'en ont fait que 7 ou 8 ans dans leur vie, vont vieillir beaucoup plus lentement du point de vue de cette capacité-là, c'est-à-dire que des personnes de 60 ans qui ont fait de la musique ont des oreilles qui, du point de vue de la séparation parole-bruit, est identique à celle des jeunes gens de 20 ans. Donc là, c'est intéressant parce que, évidemment, capable de séparer le langage du bruit, ça a des implications sociales énormes. Donc on voit que par des effets de boule de neige, d'avoir fait des activités musicales, ça peut avoir des bénéfices importants. Hypothèse des ressources neuronales, vous savez, on vieillit mieux quand on a plus de ressources. Si la musique conduit à développer plus de ressources chez celui qui en fait, eh bien, il devrait en avoir un avantage durant toute sa vie, notamment par rapport au vieillissement. Mais pas que. On pourrait encore avoir d'autres exemples. Mais tout de suite, pour avancer un peu, parce que je ne veux pas vous lâcher trop tard, vous voyez que l'autre perspective... Alors non, s'il y a une chose à dire. Excusez-moi. C'est que, en fait, on a commencé par travailler sur sa plasticité chez des musiciens qui avaient passé beaucoup de temps, mais pour des raisons de précaution scientifique, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on trouve quelque chose, quoi. L'expérience coûte très cher, donc il fallait commencer par être sûr qu'on trouve quelque chose. Une fois qu'on a trouvé, on s'est dit, mais à partir de quand se met en place cette plasticité ? C'est-à-dire, qui peut bénéficier de cette plasticité cérébrale induite par la musique ? Alors les enfants, on a regardé, parce qu'eux, ils sont plastiques de fait, et on a vu qu'en fait, un enfant qui commence à faire du piano, dans les mois qui suivent, il a déjà une plasticité fonctionnelle qui se met en œuvre, simplement qu'il y a une connectivité plus grande qui s'établit entre le cortex auditif et le cortex moteur, et qu'ensuite, cette plasticité va, si l'enfant continue l'activité, se transformer en plasticité anatomique. Pour vous donner un exemple, le corps calleux commence déjà à se différencier chez l'enfant qui a 2 ans de piano, par exemple, 2 ans de pratique du piano, au rythme d'un enfant européen qui fait du piano, c'est-à-dire 4-5 heures par semaine maximum. Hein. Ce n'est pas du staccanovisme outrancier. Il a déjà un corps calleux qui va être plus large anatomiquement. Mais fonctionnellement, les plasticités sont établies avant. Alors on s'est dit, mais et les adultes ? Bien, sachez que les adultes qui commencent la musique, si vous avez envie de commencer de la musique, vous aussi, vous aurez une plasticité cérébrale. Et je le dis tout de suite, si jamais il manque de temps, on a pu montrer que des seniors qui commencent à faire de la musique, vers 50-60 ans, qui le font avec une certaine assiduité, mais pas pour très très longtemps, quelques mois par exemple, enfin, dès quelques mois de pratique, ont une plasticité fonctionnelle qui se met en place entre le cortex auditif et le cortex moteur, et ce qui est plus important, ont des bien meilleures performances dans des tâches de cognitives qui évaluent l'impact du vieillissement, donc des tâches de fonction exécutive, des tâches de raisonnement, donc des tâches qui n'ont rien à voir avec la musique. Donc un senior qui commence à faire de la musique à 50 ans peut encore modifier son cerveau et il peut encore modifier ses capacités cognitives et diminuer les effets du vieillissement cognitif. Alors ça, c'était encourageant. On s'est dit, bon, très bien. Et qu'est-ce que ça a comme incidence sur le plan fonctionnel ? Donc, dans quelle mesure des enfants ou des adultes qui commencent à faire de la musique peuvent avoir tiré des bénéfices au niveau du fonctionnement psychologique de ces activités ? Vous avez sans doute tous entendu parler de l'effet Mozart. Qui n'a pas entendu parler de l'effet Mozart ? Mon Dieu. Alors, je dis un mot sur l'effet Mozart. Mais l'effet Mozart, c'est un effet complètement anecdotique, mais sur le plan scientifique, il a été intéressant parce qu'il a allumé une sirène d'alarme. C'est le fait qu'après avoir écouté 10 minutes d'une sonate pour deux pianos de Mozart, on a des performances au test de QI qui sont supérieures à celles qu'on aurait eues si on avait écouté de la des musiques relaxation style nature et découverte où on s'était reposé. Alors, il y a eu un fantasme généralisé. Des gens ont pensé que l'esprit de Mozart utilisait les sons pour entrer. Il y a un sénateur aux États-Unis qui a vendu dans les maternités des disques de Mozart. On pouvait les acheter à la FNAC normalement, quoi. Mais non. Et ce qui était intéressant, c'était que pour la première fois, la communauté réalisait que la musique pouvait avoir un effet bénéfique sur d'autres choses que les activités musicales. Et donc, il y a eu tout un courant de recherche pour dire, mais est-ce que c'est vrai ? Je vous donne juste un exemple d'une belle étude, cette fois, faite par Glenn Schellenberg, le Canada, une fois de plus, qui a pris 140 enfants, les a répartis de façon aléatoire dans 4 groupes. Un groupe qui, pendant un an, fait des ateliers musique, c'est même pas du conservatoire chevronné, des ateliers musique. Un autre qui fait des ateliers chant, un qui fait du théâtre, et un qui fait toutes les activités que veulent les enfants, mais aucune activité spécifique. Ces 4 groupes étant aléatoires, ils sont tous équivalents du point de vue des compétences moyennes de ces enfants aux tests de QI ou à des tests cognitifs qu'on peut mesurer. Après un an, que se passe-t-il ? Les enfants du groupe musique, piano et chant ont des augmentations du QI bien supérieures à celles du groupe théâtre et à celles du groupe contrôle. Et cette différence se trouve également lorsque on questionne les enfants sur des tâches de compréhension du langage. Aussi bizarre et contre-intuitif que ça peut paraître, ce sont les enfants qui ont suivi les ateliers musique qui vont avoir des meilleures performances dans les tâches de compréhension du langage, y compris par rapport à ceux du groupe théâtre qui ont manipulé le langage. Donc, à partir de là, on s'est dit, mais c'est surprenant. Donc, il y a eu beaucoup d'études pour savoir si les acquisitions fondamentales étaient facilitées par la musique. Et donc, on a regardé, est-ce qu'ils sont meilleurs en lecture ? Est-ce qu'ils ont des performances de conscience phonémique, de compréhension, de raisonnement, de mathématiques, etc. Et on a trouvé que oui. Et c'était suffisamment fort, là, je vous demande de me croire, hein, mais c'était suffisamment fort pour dire à certaines équipes, pour laisser certaines équipes penser que ben, c'est très bien, si la musique, ça aide comme ça, les enfants qui sont en échec scolaire, ben, on sait quoi faire. On va leur faire faire des ateliers musique. Et c'est ce qu'a fait le groupe de Marseille, Mireille Besson et Daniel Echon, se sont dit, bien, on va prendre, à Marseille, il y a plein d'enfants en situation d'échec scolaire, on va les prendre et on va leur faire faire des ateliers musique et des ateliers peinture. On va les répartir un petit peu aléatoirement dans ces ateliers, comme ça on équilibre toutes les variables qui peuvent covarier, et on va regarder, au bout d'un an, comment ces enfants ont amélioré leur performance dans des tâches de type scolaire, c'est-à-dire qui portent sur les acquisitions fondamentales, la lecture, le raisonnement, la mémoire, l'attention, etc. Tous les enfants rapportent avoir eu beaucoup de plaisir à faire les deux types d'ateliers, y compris ceux qui sont en peinture. Mais seuls ceux qui sont dans l'atelier musique ont des performances qui augmentent par rapport à ceux des ateliers peinture dès la première année, et avec la deuxième année, ça s'accroît encore plus. Donc on avait ici tout d'un coup une autre idée qui apparaissait, la musique a un pouvoir de transformation des aptitudes, en tout cas, des enfants, y compris ceux qui sont en difficulté. J'ai personnellement travaillé, Christine le disait tout à l'heure, à partir de là, avec des enfants sourds, appareillés, qui, quand on appareille un enfant sourd, il y a énormément de retard d'apprentissage de l'audition à rattraper, et c'est très très difficile de réapprendre le langage. Tout l'entraînement orthophonique actuel porte sur le langage, parce que l'idée, c'est de mettre ces enfants le plus vite possible à l'école pour qu'ils puissent rattraper le train des autres. Sauf que découvrir l'environnement sonore nouvellement en travaillant sur le langage, pour un enfant sourd, c'est vraiment très fastidieux, et les enfants sourds ont beaucoup de difficultés. Donc on s'est dit, appliquons les théories et regardons ce qui se passe si on leur donne la possibilité d'avoir des ateliers musique. Dans les ateliers musique, on ne travaille pas du tout ce que font les orthophonistes sur le langage. Mais par contre, on a mesuré l'impact de ces ateliers musique sur des tâches linguistiques, la vitesse de parole, là je commence à parler un peu vite, donc le temps pour les phonèmes, la mémoire de travail de ces enfants, qui est très courte chez les enfants sourds, et on a vu que ceux qui avaient fait l'atelier musique amélioraient ces aptitudes linguistiques alors qu'on ne les avait jamais, jamais, jamais entraînés. Et les orthophonistes avec lesquels on a travaillé nous disaient « C'est incroyable, avec ces ateliers musique, vous arrivez à avoir l'effet qu'on met un an et demi à avoir avec un intense apprentissage de rééducation en orthophonique. » Plus étrange encore, le fondamental de la voix de ces enfants se baisse ce qui est un gros problème chez les enfants sourds, qui ont beaucoup de mal à voir le fondamental grave, alors qu'on n'a jamais travaillé sur la pose de la voix. Donc un autre exemple, si vous voulez, de transfert positif des ateliers musique vers le langage. Vous me laissez 5 minutes ? 5 minutes juste pour dire que, évidemment, à partir de là, on va vers la pathologie et on s'est dit, ben, est-ce que la musique pourrait être utilisée dans des cas de pathologie cérébrale ? Il y a tout un bouquin d'Oliver Sacks qui parle de cela, peut-être vous avez lu Musicophilia, qui montre combien la musique résiste à des problèmes de pathologie. Et donc, pour aller un petit peu vite, les premières études ont porté sur l'accompagnement des patients parkinsoniens par la musique. Pour quelles raisons ? Ben pour des raisons simples, la musique a une structure rythmique très forte et les patients parkinsoniens ont des problèmes d'initiation du mouvement et ensuite d'entretien continu, d'un mouvement continu. Vous savez, il y a des moments où ça s'enraye. Et donc, les premiers travaux ont dit ben, si on accompagne le mouvement de ces patients avec de la musique un petit peu rythmée, on diminue ces phases d'enrayement chez les patients parkinsoniens, et si on joue petit à petit sur augmenter le tempo de la musique, on améliore la fluidité de la marche. La même logique a été appliquée pour les aphasiques de production. Les aphasiques de production n'arrivent pas à parler de façon fluente. On s'est dit, la musique étant une structure rythmique, on va donner des cadres rythmiques de type musicaux aux patients aphasiques, et on va voir que par ce type d'apprentissage, on leur donne la possibilité petit à petit de retrouver un usage fluent ou semi-fluent de la parole. Et si vous avez vu ce documentaire que je vous invite à voir, L'instinct musical, vous verrez que dans ce documentaire, vous avez un patient aphasique qui est vraiment aphasique, c'est-à-dire qu'il ne parle pas, mais il chante de façon totalement fluente en chorale. Et vous ne pourriez pas imaginer en entendant le passage sur la chorale que ce patient-là va être incapable de parler. Alors on s'est dit, allons voir d'autres choses. Donc, il y a une étude qui a été faite en Finlande qui a porté sur des patients qui avaient eu des accidents vasculaires cérébraux et qui ensuite avaient des tas de troubles associés à ces AVC. Et on s'est dit, ces patients, 60 patients, on va les répartir en 3 groupes aléatoires. Un groupe qui va écouter de la musique pendant 2 heures, un groupe qui va écouter du langage pendant 2 heures et un groupe qui va faire la rééducation des centres de rééducation habituels dans ce type de situation. Au début de l'étude, juste après l'AVC, les performances mesurées par les tests neuropsychologiques sont les mêmes dans ces 3 groupes, puisque les groupes ont été constitués de façon aléatoire. Après 3 mois, on refait un testing, et on constate que là où il y a des avantages, c'est toujours pour le groupe musique, y compris dans les tâches linguistiques de compréhension, de parole, de mémoire verbale. C'est les groupes musique qui l'emportent sur le groupe qui a entendu le langage. Et après 6 mois, on confirme ces effets-là. La conclusion des auteurs, c'est de dire que tout se passe comme si la musique était un vecteur de plasticité cérébrale qui aide, dans le cas présent, l'hémisphère droit à récupérer, à réorganiser la fonction linguistique qui a été détruite par l'AVC dans l'hémisphère gauche. Je peux là aussi passer beaucoup de temps à vous donner d'autres exemples. Je vais juste choisir ceux qui sont les plus presque magiques. Eckhart Altenmüller en Allemagne s'est dit les patients AVC, ils ont aussi énormément de problèmes moteurs. Alors, on fait de la rééducation psychomotrice, vous savez, de ces patients-là. Lui, il a dit, ben, la meilleure rééducation, c'est d'apprendre le piano. Ben, voyons, hein, quand vous avez un AVC, vous avez du mal à coordonner vos membres. Apprenez le piano, ça va vous aider. Et il l'a fait apprendre le piano, non pas pour jouer des sonates de Mozart ou de Beethoven, mais pour jouer des petites mélodies simples. Et selon la sévérité des déficits, le piano, c'était une batterie, chaque tome était une note de musique, ou c'était un vrai piano. Et l'idée de Descartes à Altenmüller, c'était de dire que le cortex auditif, dans ce cas-là, va donner une information qui va aider une plasticité au niveau du cortex moteur et qui va aider à la réorganisation des gestes qui ont été détruits par l'AVC. Et ça, ce sont des études d'IRM de Christo Pantev qui ont montré qu'effectivement, c'est ce qui se passait. Apprendre la musique quand vous avez un problème moteur suite à un AVC, ça facilite la rééducation par rapport aux rééducations. Alors, on s'est tourné vers d'autres pathologies, Alzheimer. Est-ce qu'on peut aider les patients Alzheimer à mémorer, à prendre de nouvelles informations ? J'ai beaucoup travaillé sur cela. Pour aller vite, si vous faites apprendre des listes de mots à des patients Alzheimer, bah, vous allez avoir 20% de rappel par rapport à des sujets contrôle qui vont être à 80%. Si vous faites apprendre la même liste de mots, mais en les chantant, vous montez à 40% de rappel. Vous n'enlevez pas la maladie d'Alzheimer, bien évidemment, mais vous réduisez le déficit. Alors on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a fait des études, non pas d'IRM, les psychologues utilisent ce qu'on appelle l'IRM du pauvre, c'est-à-dire la NIR, c'est-à-dire des études qui permettent de calculer l'oxygénation qui est faite dans le cerveau, mais à la surface du cerveau. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, avec la musique, le cerveau consomme moins d'énergie, mais est plus performant. Donc si on voulait déformer un tout petit peu un slogan, un vieux slogan politique, consommez moins, mais performez plus grâce à la musique. Et on s'est dit, mais pourquoi? Et en analysant les réponses, on a compris, ben oui, la musique, tout se passe comme si elle développe des, elle facilite les associations conceptuelles. Et quand vous mémorisez des mots, faire des chunks et dire, tiens, il y a tel et tel et tel lien, ça facilite, ça renforce la solidité de la trace. Et dans l'analyse des erreurs de réponse, en comparant les deux situations, on s'est dit, ben oui, voilà, la musique, elle conduit à développer cette stratégie. Alors, juste un mot, parce que ça nous concerne tous, les autres maladies, ça c'est pour les autres, bien évidemment. Le vieillissement, je l'ai dit, le grand enjeu de la recherche maintenant, c'est de se dire, est-ce que la musique pourrait nous aider à lutter contre le vieillissement? Il y a deux situations à différencier. Ce qu'on peut anticiper, les problèmes de santé sont des problèmes d'éducation, la santé de demain, c'est l'éducation d'aujourd'hui. Donc oui, bien sûr, plus vous allez développer vos ressources neuronales enfant, et plus vous allez être résistant, non seulement au vieillissement, mais aux atteintes cognitives potentielles. Mais si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas trop tard. Et donc, les études ont montré que si les seniors apprennent aujourd'hui à faire de la musique, ils vont mieux résister au vieillissement cognitif que d'autres seniors qui sont très engagés dans la vie sociale, qui organisent des voyages, qui sont dans des différents clubs, style Rotary Club, qui font des... Ce n'est pas des gens qui dorment. Et on pense que c'est très clairement parce que la musique est un vecteur de plasticité et qu'elle développe vraiment des ressources au niveau neuronal en développant les connectivités, en renforçant le nombre de connexions, etc. Ma petite conclusion. Évidemment, il ne faut pas aller au conservatoire pour ces raisons-là. Il faut aller au conservatoire parce qu'on a envie de jouer avec les sons et qu'on a envie de communiquer avec les autres par les sons, échanger des émotions par les sons. Mais si on fait ça, il faut savoir que les effets secondaires sont très positifs. Voilà, je vous remercie pour votre attention.